la première question que j'aurais pour toi, c'est juste de savoir si en quelques mots tu peux te présenter et dire ce que tu fais.
Donc je m'appelle Sophie, je suis française et je vis en Belgique depuis 4 ans.
Ouais.
Je suis arrivée ici pour le boulot, puisque je travaille dans une école Montessori ici à Bruxelles. Ce sont des écoles qui ne sont pas partout. Et il y en a une notamment ici qui m'a énormément attirée, dans laquelle j'avais pu faire un stage. Et voilà, donc je suis éducatrice Montessori depuis 4 ans.
D'accord. Voilà. Alors première question très importante. Est-ce que tu t'amuses dans ton métier? Est-ce que tu prends du plaisir à faire ce métier?
Je prends énormément de plaisir à faire ce métier. Oui, je m'amuse, je dirais, tous les jours, globalement. Cool. Je m'amuse tous les jours, ce qui est plutôt cool.
Ok. Si on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui, alors que ce soit les rencontres, les études, les boulots que tu as pu faire avant, qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ce métier?
Je dirais qu'il y a eu, y avait un souhait chez moi d'être dans l'enseignement depuis petite.
Ok.
J'ai eu la chance d'être inspirée par plusieurs profs dans mon cursus scolaire. Qui, soit dit en passant, était un cursus tout à fait classique.
Bien, ouais.
Voilà. Donc il y a eu cette inspiration, cette envie qui est née à ce moment-là. Et puis, bon, il n'y a pas eu forcément l'envie de faire des études classiques à l'UFM ou le parcours que j'aurais pu faire en France à cette époque-là. Et j'ai commencé des études qui n'avaient rien à voir à l'époque avec l'enseignement. Et dans ces études-là, j'ai réalisé des stages, j'ai rencontré des gens. Et c'est par des rencontres, en fait, que j'ai découvert Montessori, que j'ai découvert les pédagogies alternatives, que j'ai compris qu'on pouvait enseigner de façon différente. Et je me suis sentie tellement en accord, tellement appelée par ce genre de méthode, que j'ai creusé, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai lu des livres sur le sujet. Et puis, bon, malgré ça, j'ai quand même continué mes études et j'ai commencé à travailler dans un univers qui était complètement loin
dans disons, tes études, qui était dans le prolongement de tes
absolument études. Et en fait très vite dans mon deuxième poste j'ai compris que a priori je m'étais trompée de voie. Que je n'étais pas dans une réalisation très complète de moi-même, que j'avais pas de passion dans mon job, que ça se passait bien mais que bon, et voilà, donc assez vite je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je veux réellement faire. C'est à ce moment-là que ça s'est éclairci pour moi.
D'accord, ok. Donc si on regarde un peu plus vraiment ton métier, ce que tu fais et tout, est-ce que tu pourrais me décrire quelles sont les différentes tâches, activités que tu vas faire dans une journée, entre guillemets, type? Et puis après, là, on fera la même question sur la semaine, voir s'il y a des changements.
D'accord. J'ai deux rôles, en fait, essentiels. J'ai le rôle d'éducatrice, à proprement parler. C'est-à-dire que mon travail, c'est d'être avec les enfants, de leur transmettre des choses, de leur faire passer la meilleure journée possible et de les aider dans leur développement. Donc ça, c'est mon premier rôle principal. Et le deuxième rôle que j'ai dans ma journée, c'est le lien que je peux faire avec leur famille, avec les parents essentiellement, leur babysitter, leur oncle, leur tante, leur grand-père, peu importe les gens impliqués dans leur éducation. Et ça, c'est tous les matins quand ils arrivent et essentiellement l'après-midi quand ils reviennent.
D'accord.
Au début de la journée, les enfants arrivent. Moi, je les accompagne dans leur mise en route de la journée, dans leur installation, pour qu'ils enlèvent leurs affaires, qu'ils mettent leurs pantoufles, etc., qu'on se mette au travail.
Okay.
Donc ça, c'est une première phase. Ensuite, on est à proprement parler dans la phase de travail, de 8h30 à 11h à peu près. Donc là, c'est je présente des nouvelles activités aux enfants, je les observe pour voir où ils en sont, je passe des moments avec eux, je les emmène dehors pour faire que ce soit de la botanique ou de l'art ou une balade pour observer les choses de la nature. Voilà. On va faire plein de travaux, essentiellement en individuel, puisque actuellement je suis en 3-6 ans et que c'est le plus approprié pour cette tranche d'âge-là, mais également des petites activités de groupe.
D'accord.
Et puis vers 11h, on est dans un moment plus social, je dirais, donc on se réunit tous ensemble. Je travaille en binôme avec une autre collègue, donc on se réunit avec ma collègue et tous les enfants. Et là, on fait des jeux, on chante, on essaye de chanter tous les jours, c'est très important, et on partage un moment convivial. On finit aussi par un snack. Voilà, on partage un petit snack que les enfants préparent dans la matinée. Et puis, Ça, c'est après, s'en suit un moment où on est dehors.
D'accord.
Le déjeuner est collectif, c'est-à-dire qu'on est dans notre classe et on mange tous ensemble.
D'accord.
Un repas que les enfants ont participé à préparer. Voilà. Donc c'est vraiment un moment sympa où on papote. C'est aussi le moment de, voilà, d'apprendre à mieux connaître les enfants, de parler de tout et de rien, de voir comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils aiment. Voilà, ils me parlent de tout. C'est souvent des moments où j'apprends à vraiment creuser avec eux. Et puis l'après-midi, on revient sur une plage horaire de travail qui est un peu plus courte, de 1h à 1h30 en fonction de là où on en est. Et l'après-midi se termine assez tôt, puisqu'à 15h30, les enfants sont partis.
D'accord.
Je dirais que là, ce que je t'ai donné, la routine, elle va a priori pas trop changer d'un jour à l'autre.
Ouais.
Cela dit, ce qui va varier, c'est les projets sur lesquels on travaille.
D'accord.
Avec ma collègue, on a bien sûr un planning semestriel de projets qu'on a envie d'approfondir avec les enfants. Et alors là, ça va être l'occasion d'organiser des après-midi autour d'un thème, des sorties, des matinées où on va se concentrer sur la fabrication d'un objet ou la construction d'un tipi d'Indien. Ou, voilà, on va vraiment se concentrer sur quelque chose. Dans ces cas-là, la routine est modifiée.
D'accord.
Et puis, à côté de ça, il y a deux autres choses. C'est-à-dire qu'on se réunit avec mes collègues, tous les collègues de maternelle, tous les mercredis midi. Parce qu'il n'y a pas école l'après-midi.
Ouais.
Donc le midi et le début d'après-midi, c'est vraiment un moment, toutes les semaines, où on se réunit et on parle des projets, on fait le point sur plein de choses. Et après l'école, à partir de 15h30, c'est un moment où je suis avec ma collègue et où on fait de la planification, on se projette sur les semaines à venir, on parle des enfants, on échange sur ce qu'on a observé, on voit typiquement les activités qu'on a envie de leur présenter dans les jours à venir et on essaie de les accompagner, voilà, au mieux dans ces temps-là, quoi. Mes responsabilités, je dirais que c'est effectivement, dans un premier temps, c'est une responsabilité de sécurité. C'est-à-dire que, bon, bah, tout bêtement,
c'est vrai. Il faut qu'il revienne entier, quoi.
Voilà, les parents me confient leurs enfants, donc on s'assure que tout se passe bien. Sachant qu'avec notre pédagogie, on essaie de faire énormément de choses aux enfants et de les exposer à un maximum de choses de l'extérieur et... Voilà, toujours en dosant et bien pensé, mais c'est vrai que, bon, bah, je dirais que dans cette approche-là, on doit d'autant plus être attentif à la sécurité de l'enfant. Voilà, évidemment, d'un point de vue pédagogique, c'est-à-dire qu'on leur permettre d'apprendre tout ce qu'ils
veulent.
Voilà,
des choses.
Exactement. Et puis une responsabilité, je dirais, pédagogique, c'est-à-dire que. Les parents doivent être à même de savoir ce que font leurs enfants dans la journée, ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est à nous, en fait, de faire un retour aux parents qui soit assez consistant sur l'état de leur enfant à l'école.
D'accord.
Donc, il y a quand même une responsabilité de communication, je dirais, à ce niveau-là. Tu vois.
Ok. Et du coup, lié à ça, quelles sont pour toi les qualités, les compétences qu'on doit avoir en tant que personne pour faire ce métier, ou enfin voilà, c'est vraiment ton avis personnel par rapport à ton expérience.
Alors je dirais que un bon relationnel aide.
Ouais.
Un contact facile avec l'autre, c'est bien parce qu'on va en avoir tous les jours et tout le temps. Donc c'est important. Et je dirais une bonne capacité d'observation, une capacité à prendre un peu de recul, à regarder les choses dans leur vue d'ensemble. Et aussi, ouais, donc une, voilà, une prise de recul, un bon relationnel, une prise de recul, et je dirais une capacité de restitution qui soit.
Transmission voilà. Aussi.
C'est ça, ouais. Les compétences, c'est une ouverture sur le monde, une curiosité d'esprit, ça c'est hyper important parce que les enfants sont très curieux naturellement, et si nous on n'est pas curieux, eh ben, on va leur transmettre une image du monde et de la réalité qui n'est pas... On va un peu les endormir, quoi. Et ça, c'est hyper dommage. Parce qu'au contraire, il faut pouvoir leur apporter des chemins pour qu'ils trouvent leurs réponses. Mais il faut continuer à
regarder cette curiosité.
Exactement, exactement. Notre classe, elle doit être vivante. Donc, c'est aussi une capacité de remise en question, de changer ses intérêts perpétuellement, de... rester ouvert à ce qui se passe dans le monde ou autour de soi, dans sa famille, avec ses amis et tout, et d'arriver à le transformer dans quelque chose qui est à la portée des enfants. Donc ça, et puis je dirais un amour de l'autre, quoi.
Ouais.
je veux dire, dans ce job-là, c'est très compliqué si on, bon, si on ne s'intéresse pas, je dirais même à l'homme, enfin, l'enfant, son apprentissage, son développement, qui il est. Surtout quand on travaille avec des jeunes enfants. On a évidemment tout un aspect pédagogie, mais à cet âge-là, il y a encore énormément d'aspects humains. Oui, les enfants, parfois, ils sont juste pas prêts à recevoir l'information parce qu'à ce moment précis, ils sont en train de vivre quelque chose de difficile à l'intérieur qui va passer quelques minutes plus tard. Mais si on n'est pas capable de s'arrêter et de se dire « Bon, les maths, je vais t'expliquer ça dans 5 minutes. Je vois que là, tu as besoin d'un gros câlin. On va papoter. » On va rigoler, on va chanter une chanson, et puis après ça va aller mieux. Mais les enfants ont besoin de ça. Donc il faut cette capacité de se dire, bon, on est dans le présent, de quoi il a besoin, et puis on reste simple, on l'apporte, quoi.
C'est cool.
Ouais, ah ouais, tout à fait.
Du coup, là, on a abordé un peu la question suivante que j'avais, qui était sur les avantages, les inconvénients, et aussi les challenges que tu vois à ce métier-là. Donc bon, les challenges, il y a beaucoup d'adaptabilité, ce côté humain qui peut être aussi peut-être un peu... Enfin, hyper intéressant, mais aussi challengeant en même temps. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter par rapport à...
Un des avantages énormes de mon job, c'est que les journées sont toujours différentes.
Ouais.
Et en fait, j'ai beau avoir mon planning, ce que j'ai en tête, ce que moi, je veux apporter. C'est les enfants qui vont m'apporter, en fait. Tout ce qui va se passer, ça découle de ce que les enfants amènent, ce qu'ils apportent et comment j'y réponds. Donc en fait, parfois, je pars dans mon idée le matin... Et puis il y a deux enfants qui arrivent et puis qui vont m'apporter une toute autre idée, où ils ont eux-mêmes découvert une nouvelle passion, où il y a un truc qu'ils ont vraiment envie de partager avec les autres ou sur lequel ils veulent travailler, explorer, chercher dans les livres et tout ça. Bon, ben c'est parti, on y va. L'important, c'est pas que moi je creuse mes intérêts, c'est évidemment que je les nourrisse par ailleurs, mais c'est que eux puissent avancer, etc. Donc ça c'est génial. Je trouve qu'il y a, une variété dans les journées qui est fabuleuse. Et puis, alors lié à ça, je vois un challenge un peu parallèle, qui peut être un challenge, c'est du point de vue de l'énergie. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, qui est merveilleux parce qu'on reçoit énormément, qui est vraiment, je dirais, un peu plus humain.
Ouais.
Mais donc, la corde humaine, la corde empathique, la corde émotion, etc., c'est une corde, on ne peut pas tirer dessus indéfiniment. Donc, il faut savoir... prendre du recul et puis se préserver.
Ouais.
Tout, je dirais, dans un point de vue de ce qu'on donne en énergie, c'est-à-dire que si on est une personne qui a tendance à beaucoup donner, ben, les enfants ne vont jamais vous arrêter. Donc, ouais. Il faut savoir aussi se prendre des pauses, se préserver, voilà. Et puis d'un point de vue émotion, etc., on peut rentrer un petit peu trop vite dans... on peut se sentir un peu trop en lien avec un enfant et par rapport au challenge qu'il peut vivre, par exemple, ou si on voit un enfant en difficulté... se prendre un peu trop, prendre les choses trop à cœur.
Ouais.
Voilà, il faut savoir aussi garder les choses à leur place. Voilà,
exact.
Dans mon job, des fois, je ne peux pas prendre de pause. C'est comme ça. C'est aussi ça de travailler avec les jeunes enfants. C'est qu'ils ont tout le temps... Enfin, c'est pas qu'ils ont tout le temps besoin de nous, mais c'est qu'avec une classe, quand il y en a un qui n'a pas besoin de nous, il y en a forcément un autre qui a besoin de nous. C'est à nous aussi de travailler là-dessus, de les rendre de plus en plus indépendants. C'est un point essentiel de mon travail, c'est de les aider autonome, à être indépendants et autonomes. Donc voilà, il y a des après-midi où je peux m'asseoir et tout roule. Et là, je sais que je peux observer et me dire, il y a un truc que j'ai bien fait dans mon job. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles je dois encadrer, mais là, il y a quelque chose qui roule, puisque visiblement, ils sont capables de bosser tout seuls. Avantage, la liste, elle est... Tout ce que tu aimes, tout ce que tu es, a une place dans ton travail. Moi, là-dessus, je n'ai pas beaucoup d'amis qui peuvent me dire ça de leur job. Je vois pas... Il y a d'autres carrières, évidemment, mais c'est pas non plus le cas de tout le monde. Et je m'en rends bien compte, c'est un truc exceptionnel dans notre job. L'énergie que je porte le matin avec moi, la façon de m'habiller, les idées que j'ai, ma façon de parler, ce que je vais avoir envie de faire... Tout ça, c'est tu l'apportes dans ton job.
Ouais.
Donc, c'est génial.
Mais du coup, toi, en tant que personne, si on revient vraiment plus sur ce qui t'anime, c'est ce contact humain, c'est la transmission, c'était Dans l'éducation, tu as dit enfin, que c'était quelque chose vers lequel tu avais été attirée depuis assez longtemps. C'était plutôt la transmission, c'était plutôt le côté
humain. Oui, c'était la joie d'apprendre, en fait. Moi, ce qui m'a vraiment animée quand j'étais à l'école, c'était le bonheur que j'ai ressenti en apprenant des choses.
D'accord.
En fait.
C'est ça qui t'a inspirée dans le métier, de refaire la même chose et de permettre...
Ouais. Et de comprendre qu'on peut... On peut transmettre des choses très différentes selon la personne qu'on a en face de nous. Mmh. Mais le plus important, c'est l'amour de la transmission. C'est l'amour de ce qu'on a à offrir et de l'autre.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'école et que je me suis sentie respectée en tant que personne, appréciée, et en plus qu'on avait envie de m'apporter quelque chose de magnifique, quoi, de connaître quelque chose sur le monde, un savoir, quoi, finalement. Ouais, ça fait tilt. Je me suis dit, ok, mais c'est juste passionnant. C'est juste passionnant, donc moi, j'adore apprendre.
Ouais.
Et en fait, c'est juste une question d'équilibre. Donc, j'adore transmettre, en fait.
Ouais.
Voilà, c'est vraiment juste la balance du truc, c'est que quand j'ai compris quelque chose, j'ai vraiment envie de la transmettre à l'autre. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel dans mon job. J'aime aussi le challenge.
Ouais.
Et on est constamment en train de se remettre en question et d'essayer de trouver l'approche la plus fine par rapport à chaque enfant, les moments les plus justes, la façon de présenter les choses la plus appropriée. Et voilà, et tout ça dans un contexte qui est le monde, qui n'arrête pas de bouger, qui évolue tout le temps, et on a besoin d'être à la page. Donc voilà, donc le challenge, il est là. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est un job où ça bouge. Donc,
fais comme ce que tu disais, t'as pas deux fois la même journée, les enfants se comportent pas de la même manière, les activités sont pas les mêmes.
Tout à fait.
Et vu que ce que tu amènes, c'est ce que toi aussi tu vas capter du monde et que ça change tout le temps.
Mais
tout ça change tout le temps.
C'est ça.
Beaucoup d'adaptabilité aussi, quoi.
Ouais, ouais.
Ok. Comment tu vois ton impact par rapport au monde sans forcément.
Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, c'est vrai que d'un point de vue, je dirais pratique de tous les jours. Quand je vois que l'enfant a passé une belle journée, je me dis, bon, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'il a appris des choses, il est content d'être là, il aime l'école. Moi, je vois les choses de telle sorte que je voudrais que les enfants ils puissent aimer l'école, aimer apprendre, qu'ils y trouvent vraiment un plaisir profond et un endroit où ils puissent trouver les outils pour leur développement, intérieur, extérieur, social, voilà, d'un point de vue global. Et si je peux participer à ça, bon, et ben c'est ça qui m'importe. Donc quand je vois ça au quotidien, c'est génial. Et puis quand je travaille aussi avec mes collègues des niveaux différents, quand on monte des projets ensemble, des soirées d'information sur différents thèmes, et que je comprends, que je prends un peu de recul et que je comprends ce qui se passe un petit peu plus loin sur l'échelle des âges, et comment finalement... tout est important et que tout se construit si jeune et commence déjà avec autant d'importance petit, ben je me dis ça a du sens de faire ça, quoi. Ça a du sens, ouais. Non, c'est génial. Et si peut-être que ils peuvent déjà commencer par aimer l'école à ce moment-là, ne pas être challengés sur des choses qui sont trop difficiles pour eux, etc., et construire des bases qui soient bonnes, c'est déjà bien. Et puis il y a une autre chose aussi où qui est très, très importante pour moi, au fil du temps, je réalise, c'est l'impact que je peux avoir par rapport à la famille de l'enfant.
Okay.
Puisque nous, en tant qu'éducateurs, enseignants, on passe quand même de nombreuses heures par jour avec leurs enfants. Souvent, les parents travaillent, souvent les deux doivent travailler, ils ont un emploi du temps hyper chargé, donc ils voient peu leurs enfants, finalement, en tout cas dans la semaine. Et c'est hyper important de pouvoir leur transmettre ce qui se passe dans les journées de l'enfant. Toutes ces petites choses qu'ils n'ont pas l'occasion de voir, ces petits changements qu'ils n'ont pas pu noter parce que c'était à l'école. Et puis peut-être aussi parce que l'enfant est parfois très différent entre la maison et l'école. Et c'est important que dans leur regard, ils prennent en compte aussi l'enfant dans dans sa globalité, quoi, finalement.
Pour mieux le connaître, du coup. Et
exactement.
Avoir un regard qui soit plus juste, peut-être, par rapport à l'enfant. Et... Comment est-ce que tu peux évoluer par rapport à ça, à ce métier-là ? Donc là, tu es avec les petits. Quelle est l'évolution que tu peux avoir par rapport à à ton métier dans les années à venir, en fonction de si tu le souhaites ou pas
Alors, actuellement, donc, je suis une formation qui va me délivrer donc, le diplôme pour les 6-12 ans, okay. donc pour les enfants du primaire. Donc ça, c'est l'évolution, je dirais, assez classique. Il y a également l'option de se diriger vers la tranche encore plus jeune, hein, puisqu'il y a aussi un diplôme 0-3 ans.
Ah ouais, d'accord.
Donc ça, c'est deux évolutions possibles autour de la tranche d'âge 3-6 ans. Et puis après, tout est possible, c'est-à-dire, je dirais que le mouvement des écoles Montessori, c'est un mouvement en expansion. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là actuellement. Beaucoup d'écoles qui se montent, d'associations de parents qui se mettent ensemble pour créer des écoles. Donc, il y a aussi cette perspective-là possible pour les personnes qui voudraient travailler dans ce milieu-là, d'ouvrir une structure ou d'être un membre actif d'une association qui a une école ou qui a monté quelque chose.
Donc, tu pourrais devenir donc, professeur dans les âges, donc ça va jusqu'au bac ?
Alors, dans notre école, ça va jusqu'au bac, mais ma formation me permettrait d'enseigner jusqu'à 12 ans.
Ouais.
Après, c'est encore une autre formation.
Ouais. Et tu pourrais devenir une directrice d'école, tu peux avoir, c'est des choses comme ça. Il y a d'autres types de métiers qui sont en lien avec l'école, autre que le directeur.
Absolument, dans notre école, on a une comptable, une personne qui s'occupe des ressources humaines, qui est maintenant épaulée par une autre, donc il y a quand même deux personnes dans le milieu RH. Et puis à l'administration, il y a aussi deux autres personnes qui assistent nos deux directeurs dans les tâches administratives. Donc il y a ces métiers-là. Je dirais qu'il faut voir ces écoles-là comme en général comme des entreprises privées ou des associations. Donc oui, on peut devenir directeur. Il n'y a pas de formation pour être directeur d'école à proprement Montessori. Après, si on passe directeur, c'est effectivement d'être plus en lien avec les parents, d'être un acteur aussi de tout ce qui se passe, de l'expansion, de l'évolution. Voilà. Et puis, ça ne veut pas dire laisser tomber complètement l'enseignement.
D'accord.
Il y a des directeurs ou des directrices aujourd'hui qui arrivent à être 50% dans leur classe. Je pense que c'est un beau challenge, ça, mais bon, pourquoi pas. Et 50% d'administratif, de relations avec les parents, tout ça.
Okay.
Je pense que ces écoles-là vont évoluer, il va y en avoir de plus en plus dans les 10, 15, peut-être 20 années à venir. Et je l'espère grandement, de plus en plus accessible.
Ouais.
Que ça va se démocratiser réellement. Donc, je pense que ça va vraiment continuer. Je dirais que notre réponse d'éducateur, notre approche, elle va être amenée à évoluer, à continuer à évoluer. Les questions du numérique dans les écoles, je veux dire, aujourd'hui, c'est déjà une grosse question, mais elle ne va pas... Elle reste très ouverte et je pense que ça va continuer un maximum dans cette voie-là. Se poser la question d'à partir de quel âge on amène les ordinateurs, les iPads, etc. Quelle est la place du numérique dans la classe. Voilà, c'est des choses où...
Donc il va falloir s'adapter avec le monde qui change. Le métier en tant que tel, l'enseignement risque de rester plus ou moins identique avec des outils éventuellement qui vont changer.
Tout à fait.
Quoi.
Tout à fait. Ouais.
Okay. C'est pas un métier qui va s'arrêter de toute manière dans les années qui viennent.
J'espère que non.
Si sur 10, tu devais noter l'équilibre que tu as entre ta vie professionnelle et ta vie privée, qu'est-ce que tu donnerais comme...
10 sur 10.
Ouais. Toi, vraiment, c'est...
Oui, parce que je trouve qu'on est dans un job où on peut. On peut. Ah, il faut par contre se décider. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai des collègues qui bossent tout le temps.
D'accord. Mais non, c'est vraiment par rapport à comment toi tu le vis.
C'est 10 sur 10.
D'accord.
Ah, tout à fait.
Si tu notais pareil sur 10, j'ai envie de dire, le lien, comment est l'alignement entre ton salaire et ce que tu vas donner dans ton travail, donc le temps que tu y passes, ton implication.
Ouais.
Pareil, combien est-ce que tu noterais? En gros, c'est de comprendre est-ce que tu es satisfaite avec ça, est-ce que ça match ou est-ce que voilà.
Écoute, je dirais que je suis entre 7 et 8.
D'accord.
Voilà. Pour moi, il y a un axe de progression qui est possible.
D'accord.
Mais je ne suis pas j'estime quand même que c'est relativement aligné. Ouais, ouais, tu vois, 7-8, bon.
Ok. Pareil sur 10, à quel point est-ce que tu te sens heureuse c'est dans ton métier, mais plus dans cette globalité-là, dans ta vie
Écoute, 10. ça, c'est les restes de l'éducation classique. J'ose pas dire 10. Enfin, tu sais, c'est genre, non, on donne pas un 10 sur 10, on met pas 20 sur 20. Bah si, en fait, quand c'est génial, il faut le dire.
Ouais, mais c'est cool.
Ouais, non, tout à fait, ouais, je pense, ouais.
Ok. Et donc, pour conclure, alors, qu'est-ce que tu pourrais dire pour inspirer, en fait, donc, n'importe qui regarderait cette vidéo, et en particulier, les personnes qui, du coup, potentiellement seraient intéressées par faire ce métier, s'orienter vers ce métier-là, ou les gens qui seraient en reconversion, pour choisir ce métier-là, et éventuellement, alors, je sais pas, un conseil, un truc auquel il faudrait impérativement qu'ils pensent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
Ben, déjà, j'inviterais ces personnes-là à vraiment se tourner vers le réseau de personnes, parce que il y a tout un, voilà, on est un réseau de plus en plus grand de personnes qui travaillent dans ce monde-là. Pour moi, ça a été vraiment déterminant, les personnes que j'ai rencontrées. Donc j'inviterais vraiment les gens à se tourner vers notre association Montessori, les écoles là où ils vivent, aller rencontrer, aller voir, se déplacer, parce que c'est quelque chose qu'on... Moi, je vois beaucoup de parents qui viennent pour la première fois dans l'école et je vois dans leurs yeux, ils comprennent parce qu'ils voient. Qu'est-ce que ça veut dire faire les choses différemment? Qu'est-ce que ça veut dire suivre l'enfant? Qu'est-ce que ça veut dire penser globalement, etc. Il faut vraiment... Pour le comprendre, je crois qu'il faut, le sentir. Il faut, aller le voir sur le terrain. Et puis... Et puis se former. Enfin, moi, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner. Il y a de plus en plus de week-ends, de modules de formation, de formation plus loin. Bon, ça, je crois que c'est... Ouais, ça apporte énormément. Énormément. Bah, je dirais que s'ils sentent à l'intérieur d'eux que c'est quelque chose qui leur parle, il ne faut pas hésiter, il faut le suivre, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à trouver. Il y a quelque chose à approfondir, il y a vraiment quelque chose. Et moi, j'ai la croyance profonde que quand on suit ça, on suit une intuition qui est juste, qui est bonne, parce que c'est la nôtre, et il n'y a personne d'autre qui la connaît. Et alors, il y a les portes qui s'ouvrent derrière. Si on s'écoute, il y a quelque chose, en tout cas, à découvrir, à rencontrer. Et c'est juste... Enfin, moi, j'ai l'impression de vivre un job qui est passionnant, qui est nouveau tous les jours, qui est extrêmement enrichissant. Intéressant intellectuellement.
Ouais,
quoi. T'es génial, quoi.
T'es génial. Ouais, c'est cool. Ouais. Et alors, vraiment, pour finir, alors là, c'est un peu une ouverture, un conseil de vie ou un truc qui peut, je sais pas, qui te motive, toi, une phrase, une citation, un truc un peu que tu pourrais aussi partager avec les gens qui regardent cette vidéo-là. Chose,
bah écoute, moi il y a une phrase de Sénèque que j'adore, qui est assez connue, mais alors attends que je te la recite correctement. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous ne les faisons pas, c'est parce que nous ne les faisons pas qu'elles sont difficiles. Okay. Et tu vois, ça me fait penser à, bon bah parfois c'est une reconversion, parfois c'est juste une remise en question, parfois c'est oser aller voir ce qui se passe ailleurs ou aller rencontrer quelqu'un. Mais fais-le. C'est parce que tu le fais pas que t'oses pas.
Ouais.
Tu vois? Voilà. Merci beaucoup.